France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les studios de guitare. Ravi de vous retrouver chaque semaine sur France Musique. Bon, les amis, on va pas se mentir, on a passé un mois de janvier bien sombre. D'abord, on apprend la disparition de Ralph Towner, grand jazzman à la guitare classique auquel on rendra hommage la semaine prochaine. Ensuite, celle de Kazuhito Yamashita. On fera aussi, bien sûr, une émission spéciale la semaine suivante sur ce légendaire virtuose japonais. Et là, il y a quelques jours, c'est Roberto Ossel qui nous quitte. Alors bon, je chamboule mon programme du jour pour réécouter un peu avec vous la poésie du guitariste argentin. Dans Guitare de légende, nous recevons la musicienne, pédagogue et journaliste Fabienne Bouvet, qui a bien connu Roberto Ossel. Elle lui rendra hommage en fin d'émission. On parlera aussi mandoline et on sera en ligne avec Julien Martineau pour évoquer avec lui ses nouveaux projets, en écouter quelques extraits. Son dernier enregistrement s'intitule « La cinquième saison ». Nous allons découvrir tout cela ensemble. Mais pour l'heure, on commence tout de suite en musique avec Roberto Ossel. C'est avec ce disque que je me suis réellement rendu compte de la profondeur et de la poésie du jeu de Roberto Ossel, 15 sonates de Scarlatti enregistrées pour le label Aeon. Quand on écoute ce disque, on ne se pose plus la question de savoir si c'est historiquement informé, si les ornements sont comme ci ou comme ça, si les tempi sont ok. Non, on écoute juste la musique, la rencontre entre les notes de Scarlatti et la guitare de Roberto et la manière naturelle et évidente avec laquelle ces deux univers fusionnent et s'éclairent mutuellement. Thank you. La sonate K14 qui se réinvente dans les doigts de Roberto Ossel. Beaucoup de délicatesse, une interprétation qui regarde vers la guitare, qui ne cherche pas du tout à imiter le clavecin, mais bien à trouver un chant spécifique à l'instrument. Et ainsi, la musique est en même temps juste, ancrée et nouvelle. Il y a quelques années, pour la sortie de son disque Tango et Milonga, je disais à ce micro ces mots. Il y a une sorte d'oubli de soi dans les interprétations du guitariste Roberto Ossel qui, dans l'éternité d'un instant, transcende le cœur et l'émotion. Eh ben, j'ai pas changé d'avis depuis. Roberto a une histoire forte avec la maison de la radio puisqu'il lança véritablement sa carrière en remportant en 1975 le concours international de guitare de Radio France, mené alors par Robert Vidal.
Thank you.
Sur cette musique d'Atahualpa Yupanqui, Roberto Ossel est exceptionnel. Il en respire toutes les inflexions et c'est d'ailleurs une de ses qualités premières, arriver à être un véritable passeur en toute humilité et au service du propos musical. Et c'est pourquoi les compositeurs qui croisaient sa route aimaient écrire pour lui, au premier rang desquels Astor Piazzolla. Thank you. On retrouvera l'univers du grand Roberto Ossel tout à l'heure, en fin d'émission, avec l'hommage de Fabienne Bouvet pour notre séquence Guitare de légende.
France Musique, Guitare Guitare. Sébastien Linares.
Et je vous propose maintenant de parler mandoline. Nous sommes en ligne avec un de ses représentants les plus en vue en ce moment. Bonjour Julien Martineau et merci beaucoup d'être avec nous au bout du fil.
Bonjour Sébastien.
Bravo pour votre album Vivaldi en fil directeur, mais également deux concertos de musique nouvelle, celui de Corentin Apparaï, qui a donné le nom au disque La Cinquième Saison, et un autre de Carole Beffa intitulé Blackstone. Racontez-nous un peu la genèse et ce qui a inspiré le programme de ce disque.
Alors c'est un disque qui m'a demandé plusieurs années en fait de travail, de genèse. Le concerto de Carole Beffa, c'est un concerto que j'ai créé avec l'Orchestre du Capitole il y a 10 ans.
D'accord.
Et que j'avais vraiment envie d'enregistrer, évidemment. C'était Geneviève Laurenceau, qui était violon super solo à l'époque de l'Orchestre du Capitole, qui m'avait présenté Carole Beffa.
D'accord.
Et on s'était dit, ce serait extraordinaire d'avoir une œuvre concertante de lui à cet instrument. Et pour Corentin Apparaï, c'est une histoire un peu différente. Corentin, je lui ai commandé sa première œuvre, sans le savoir. C'était pour un hommage à Beethoven, puisque Beethoven a composé pour mandoline,
oui.
Mandoline et piano. Et Corentin avait composé une œuvre qui s'appelait « L'être immortel bien-aimé ». On s'est très très bien entendu pour ce projet. Et Corentin, il y a maintenant peut-être 3 ou 4 ans, me dit, écoute, j'aimerais composer ma première grande œuvre symphonique pour toi avec un concerto pour mandoline. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Ah, fantastique. Et il y a la volonté dans ces deux concertos de s'inscrire dans le sillon de Vivaldi. Hein, chaque pièce reprend comme ça des citations, des évocations. Alors pourquoi ce compositeur ?
Alors, la pièce de Carole, il n'y avait aucun cahier des charges. Donc le mouvement rapide a quelque chose d'un peu vivaldien, mais j'allais dire, c'est purement fortuit.
Ah, c'est par contre, d'accord.
Oui, mais c'est vrai que ça saute aux oreilles, j'allais dire, qu'il y a ce lien, mais on n'en a jamais parlé. Alors que, par contre, pour Corentin, c'était un peu c'est la seule, contrainte que je lui ai donnée, c'était d'insérer de l'ADN des concertos pour mandoline de Vivaldi.
D'accord.
Parce que je suis un grand fan de Max Richter, de ses saisons recomposées. J'avais dit à Corentin, nous, on a la chance d'avoir des concertos très, très connus pour mandoline. On ne va pas faire comme Max Richter, mais j'aimerais qu'il y ait cet ADN un peu, cette trace. Et en fait, il a sublimé, j'allais dire, cette contrainte. Et on entend des choses parfois un peu explicites. Et la plupart du temps, c'est complètement souterrain.
Thank you. Alors, au fil de votre discographie, vous avez comme ça la volonté de mettre la mandoline au cœur d'un répertoire classique plutôt ambitieux. Est-ce que c'est vraiment une idée de faire évoluer l'image de cet instrument ?
C'est vrai que la mandoline, bah, comme la guitare, vous le savez, Sébastien, ce sont des instruments qui parfois, dans le classique, sont considérés comme des instruments moins nobles que le violon ou le piano. Enfin, la mandoline avec un décalage peut-être de 40 ans par rapport à la guitare. Mais en réalité, ce sont des instruments, bon, on le sait, qui sonnent merveilleusement bien, avec du répertoire historique de très très grande qualité. Mais c'est aussi un peu, j'allais dire, notre mission d'interprète nouveau, de participer à l'enrichissement du répertoire. On a de fabuleux compositeurs vivants, voilà, qui existent, et je pense que c'est important justement de susciter de nouvelles œuvres.
Il y a des fabuleux compositeurs, il y a des fabuleux instrumentistes comme vous, Avia Vital, il y a aussi Vincent Berdemander qui est actif, ou dans un autre style, Chris Seely, qu'on recevait il y a quelques semaines. Je trouve que, comme la guitare, la mandoline est en pleine santé. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Je sais que vous êtes aussi pédagogue, donc vous avez un regard un peu global sur le paysage.
Ah oui, complètement. Souvent, lors d'entretiens, on me dit, oui, il y a eu un âge d'or de la mandoline, alors au XVIIIe siècle. Et en fait, je dis souvent, au XVIIIe siècle, oui, il y a une période où il y a eu beaucoup de compositions, mais les mandolinistes, en fait, n'arrivaient pas à vivre de leur instrument. Il n'y avait pas d'enseignement. Enfin, de toute façon, l'enseignement de la musique au XIXe siècle était quand même très réduit. Mais il n'y avait pas. En fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de classes en conservatoire. Alors beaucoup, pas assez, mais
toujours pas assez, mais quand même.
Mais voilà, c'est ça. Oui, donc oui. Il y a quand même des jeunes mandolinistes, voilà, qui émergent avec leurs projets. Et puis des mandolinistes, voilà, comme moi, qui commencent à arriver un petit peu à maturité, on va dire, et qui amènent beaucoup de projets qui sont très variés. Et ça fait la richesse vraiment de cet instrument.
Thank you. Vous avez commencé là directement par la mandoline. Vous avez fait, c'est quoi votre parcours? Vous avez fait un petit peu de guitare avant ou du violon ou...
Alors pas du tout. J'ai vraiment commencé directement par la mandoline.
D'accord.
C'était à Argenteuil. Argenteuil qui est une grande école de la mandoline,
oui,
en France. Et c'était la première classe, on va dire après-guerre, dans un conservatoire, voilà, avec un prof titulaire, etc. C'est-à-dire un professionnel. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, j'ai commencé la mandoline, mais j'aurais pu faire du violon, hein. C'était un instrument qui était comme les autres là-bas.
Et si on parle de votre instrument, vous utilisez quel type finalement de mandoline? Est-ce que vous travaillez avec des luthiers pour développer le son, la projection, comme on fait en guitare? J'imagine que vous faites la même chose vous aussi.
Oui. Exactement. En fait, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir développer mon modèle d'instrument avec un luthier canadien qui s'appelle Brian Dean, qui est l'un des trois grands luthiers dans le monde de mandoline,
oui,
qui a des instruments qui sont, d'un point de vue déjà lutherie, extraordinaire. Et surtout, en fait, j'ai en même temps créé un jeu de cordes avec Savarez, l'entreprise lyonnaise qui a 250 ans, qui est le grand spécialiste de la corde pour guitare classique, Sébastien.
Oui.
Voilà. Et on a créé un jeu vraiment assez nouveau, en fait. Je voulais retrouver un jeu presque du 18e siècle, avec des cordes souples en nylon filé, comme
d'accord,
du voyau un peu. Et la mandoline que fait le luthier canadien est vraiment faite avec des épaisseurs de bois très légères pour fonctionner avec ses cordes. Et en fait, sans le faire exprès, on est revenu à des instruments très légers qui ressemblent aux instruments du 18e siècle. Et contrairement aux idées reçues, plus c'est léger, plus ça vibre, plus ça sonne.
Et oui, plus ça répond, bien sûr. Oui, oui, oui.
Voilà.
Ah, c'est passionnant. Dans votre communiqué, vous dites que pour devenir des classiques, les créations doivent être sans concession sur leur qualité tout en restant accessibles au grand public. Et je me demandais, est-ce que vous pensez, vu que les attentes du public ne sont plus les mêmes et évoluent au fil du temps, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de choquer un public avec une création, comme finalement ça a été le cas avec Le Sacre ou avec Péléas ou avec 433? C'est des œuvres qui ont toutes été à rebrousse-poil du public et qui pourtant sont devenues des classiques. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire ce genre de choses?
Oui, alors je pense tout à fait, mais on peut choquer, notamment dans l'opéra, je crois, dans,
oui,
les créations d'opéra, et on peut le faire parce que c'est un genre majeur avec en fait un public qui est quand même très très présent. Donc oui, je pense que c'est possible, et c'est possible de choquer et en même temps de créer des œuvres qui vont s'inscrire durablement dans le répertoire. Mais par contre, je pense que sur justement des instruments moins connus, comme la mandoline, comme la guitare,
oui,
comme l'accordéon, on n'a pas le luxe d'aller trop loin forcément dans l'expérimentation. C'est-à-dire que si on choque, ça va tout de suite passer aux oubliettes, alors que l'opéra va être remonté autre part.
Tout
Donc
à
nous,
fait.
on doit aller à l'efficacité. Voilà.
Thank you. Alors, quand est-ce qu'on pourra venir écouter en live peut-être prochainement ces concertos ? Est-ce qu'il y a des choses de prévues ?
Non, on va faire un petit extrait de Vivaldi le 8 février avec l'Orchestre Lamoureux, parce que je joue Salgavo.
D'accord.
Et donc, on va reprendre un extrait de du disque avec Vivaldi de Corentin. Et puis, ce sera... là, l'occasion aussi de mettre en avant l'un de mes concertos préférés qui s'appelle le deuxième concerto de Raffaele Calace. Voilà.
Très bien.
Et ensuite, on est en pourparler justement pour jouer la cinquième saison de Corentin Paris avec des orchestres. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore validé, donc je ne peux rien dire.
Très bien. Eh ben, dès que vous savez, on relayera tout ça à cette antenne.
Ah, merci Sébastien.
Bon, merci beaucoup Julien Martineau, c'était un plaisir de pouvoir échanger comme ça avec vous et merci d'avoir été en ligne.
Ben, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Sébastien et à très bientôt.
Thank you. écouter de la mandoline sur France Musique. Il est 14h20.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui à nos micros, Fabienne Bouvet rend hommage à Roberto Aucel.
Bonjour Sébastien et merci beaucoup de me recevoir dans Guitare de légende pour rendre hommage au guitariste argentin Roberto Aucel, cet immense musicien, ce pédagogue inspirant et cet homme d'exception dont la disparition a profondément ému le monde de la guitare. Mais avant de parler de Roberto et de son travail, qui compte tant pour nous les guitaristes, je voudrais adresser une pensée particulière à son épouse Bénédicte, ainsi qu'aux deux fils de Bénédicte et Roberto. Et je crois pouvoir associer à ma parole tous les guitaristes de France et d'ailleurs pour leur dire, à tous les trois, combien nos pensées les accompagnent actuellement. Alors bien sûr, je veux commencer par évoquer le parcours extraordinaire de Roberto Aucel, par évoquer les milliers de concerts qu'il a donnés partout dans le monde, par évoquer bien sûr les prix aussi qu'il a obtenus aux concours les plus prestigieux, notamment au concours international de Radio France en 1975 et au concours Elirio Díaz à Caracas en 1976. Je veux aussi souligner la générosité avec laquelle Roberto transmettait aux étudiants, tant lors des masterclass qu'il donnait à travers le monde que dans le cadre de la Hochschule de Cologne en Allemagne, où il enseignait depuis 1994. Et je veux enfin parler de la façon dont il a suscité l'intérêt des compositeurs de notre temps. Alors j'en cite quelques-uns, mais bien sûr la liste n'est pas exhaustive et j'en oublie. Marius Constant, François Rosset, Pascal Jakubowski, Norbert Leclerc, Francis Clingence, Arturo Gervasoni, José Luis Campana. Et bien sûr, nous pensons tous immédiatement à ce monument du répertoire que nous devons à Roberto Aucel, les Cinco Piezas, écrites pour lui par Astor Piazzolla en 1981. Cinco Piezas que Roberto a fait, sous ses doigts, voyager dans le monde entier. Depuis mardi, le monde de la guitare est en deuil et nous sommes nombreux à ressentir ce besoin d'échanger, de partager nos anecdotes et nos souvenirs avec Roberto Aucel. Et toutes les voix s'accordent pour souligner sa bienveillance, son humanité, sa générosité, son élégance et, tout particulièrement, son humilité et sa retenue. Roberto Aucel était un homme discret. Quoique, on a parfois quelques surprises. Michel Grisard, mon ancien professeur, qui est également un ami de Roberto Aucel, m'a confié il y a quelques jours un petit secret. Lors d'une soirée de Coupe du Monde de football, alors que l'équipe nationale argentine jouait, Roberto a soudain fait preuve d'une exaltation inhabituelle, allant jusqu'à crier et se lever à chaque but et à chaque occasion manquée. Comme quoi, lorsqu'on est argentin, même si l'on est très discret, il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas. Alors aujourd'hui, je vais moi aussi partager un témoignage un peu plus personnel, un peu plus subjectif, celui de la guitariste que je suis, qui appartient à une génération extrêmement chanceuse, puisque j'ai grandi à Nantes. Nantes qui est la ville dans laquelle Roberto s'était établi au début des années 1990. Il avait d'ailleurs une excellente raison pour s'y établir, car son épouse Bénédicte est nantaise. Et Bénédicte est aussi une ancienne élève du conservatoire de Nantes, et tout comme moi, elle a étudié dans la classe de Michel Grisard. Des liens, naturellement, se sont tissés entre Michel Grisard et Roberto Aucel, et ces liens ont permis à mes camarades du conservatoire et à moi-même de bénéficier très tôt de contacts réguliers avec Roberto, que ce soit en récital ou en masterclass. Et peut-être, je l'avoue, sans mesurer à quel point ces moments étaient exceptionnels, parce que lorsqu'on a 10 ou 15 ans et que l'exceptionnel s'invite dans le quotidien, on n'a pas toujours la maturité pour le comprendre. Néanmoins, j'ai le souvenir d'avoir déjà ressenti un premier choc esthétique à cette époque-là, en découvrant sa collection d'enregistrements publiés par le label Mandala, enregistrements qui m'ont fait découvrir des œuvres telles que la sonatine de Berkeley ou l'histoire du tango de Piazzolla. La vie a suivi son cours, j'ai quitté Nantes, mais j'ai à nouveau croisé le chemin de Roberto lors de masterclass en Espagne, j'ai assisté à plusieurs de ses concerts à Nantes et ailleurs, et entre-temps je suis devenue critique musicale pour la revue Classica. Dans ce cadre, en 2019 ou en 2020, je ne sais plus exactement, j'ai reçu un disque de Roberto dans ma boîte aux lettres, un disque dont je devais faire la critique, il s'agissait du disque Tango Similongas, publié par le label IBS. Et là, j'ai vécu à nouveau un choc esthétique. Alors, était-ce parce que le temps m'avait permis d'acquérir la maturité nécessaire ? J'avais tout à coup l'impression de comprendre ce que Roberto nous apporte à tous. Cette façon très particulière, très sud-américaine, d'aborder la guitare en filiation directe avec Abel Carlevaro, avec cette palette de couleurs, de timbres, cette subtilité, cette clarté, cette poésie, et en même temps cette grande humilité qui le caractérisait tant. Et je voudrais terminer avec une phrase empruntée à Michel Grisard que je remercie pour le témoignage très émouvant qu'il m'a livré mercredi dernier. Michel m'a dit « Les grands artistes ne meurent jamais ». Et je crois, effectivement, que par ce qu'il nous a transmis et que grâce à lui, nous transmettons à notre tour, Roberto Aucel reste, à jamais, présent à nos côtés.
Guitare Guitare était aujourd'hui réalisé par Patrick Lérissé et enregistré par Manu Couturier et préparé avec l'aide de Nelly Portal. La semaine prochaine, on se plongera dans l'œuvre de Ralph Towner. Et d'ici là, rendez-vous sur le site et l'appli Radio France. Si vous voulez vous abonner à nos podcasts et regarder les vidéos, consulter les programmes en détail et nous écrire.
France Musique.